Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Nous sommes aujourd'hui à Crolles, aux portes de Grenoble, sur le site de Microelectronics. C'est un endroit stratégique. Ici se fabrique le pétrole du 21e siècle. Ces semi-conducteurs dont la pénurie grippe l'économie mondiale en ce moment. C'est de loin, ST Microelectronics, la plus grande usine de France. Elle tourne à plein régime, elle se développe encore pour répondre à la folle demande. Alors comment se fabriquent ces puces qui équipent nos voitures, smartphones, ordinateurs, objets intelligents, électroménagers, consoles de jeux, tout en fait? Comment la France et l'Europe se positionnent dans cette course cruciale pour les décennies à venir? Quand on parle d'industrie et de souveraineté économique, on mesure ici ce que cela signifie. Nous verrons cela en reportage et avec nos invités jusqu'à 14h. Et bien sûr, l'actualité de ce 11 novembre. Bonjour Marion Lourd.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
C'est avec vous à Paris, Marion.
Dernier adieu à un chevalier de la liberté en ce jour d'armistice de la Première Guerre mondiale. Les mots d'Emmanuel Macron au pied de l'Arc de Triomphe pour un hommage solennel à Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération. Récit de cette cérémonie dans le journal. Lui avait reçu le prix Nobel de la paix avec Nelson Mandela pour l'abolition de l'apartheid. L'ex-président sud-africain Frédéric de Klerk vient de s'éteindre à 85 ans. Portrait et archives dans quelques instants. Dans ce journal, encore la cinquième vague de Covid, ça y ressemble chez nous, c'est très clair en Allemagne et politiquement ça tombe au pire moment, vous verrez. Et puis le pouce vers le bas, contraire du like, ne sera plus comptabilisé par la plateforme YouTube. Suffisant ou non pour lutter contre le harcèlement, les associations posent la question.
Avant 14h, nous vous raconterons le 11 novembre 1943, ici à Grenoble, quand des centaines de personnes avaient défié l'occupant allemand en célébrant la victoire de 1918. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
Et bienvenue sur le site d'ST Microelectronics de Crolles. Ceux qui savent concevoir et fabriquer des semi-conducteurs sont une poignée en Europe et on mesure depuis l'année dernière et la pénurie, l'importance de ces pièces de quelques centimètres carrés. D'elles dépend une bonne partie de l'économie mondiale. On ne compte plus les usines fermées ou au ralenti à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Un chiffre, par exemple, le marché auto s'est effondré de 30% cette année en France. 4600 personnes travaillent ici, plus de 3000 à la production, 1 millier sur la recherche et le développement. Et avant de vous parler de l'infiniment petit, un mot de l'infiniment grand. Le site de 44 hectares est au pied des montagnes et des bureaux d'ST où nous sommes installés. Eh bien, on a vu direct sur la chaîne de Belledonne, près de 3000 mètres d'altitude, les neiges au sommet et derrière nous, la dent de Crolles. Voilà pour le cadre. Et bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Service économie de France Inter, vous nous accompagnez ici. Comment raconter la course pour résorber la pénurie de semi-conducteurs? Ce qui frappe quand on arrive ici, ce sont les grues et engins de chantier, l'usine s'agrandit à marche forcée.
Oui, car à quelques mètres d'ici, on achève l'extension du nouveau bâtiment. La taille, c'est un terrain de foot, 4 étages. À l'intérieur, une salle blanche, laboratoire confiné de 3000 mètres carrés qui vont s'ajouter aux 26 000 mètres carrés déjà en activité, explique le directeur du site, Éric Gerondeau.
C'est la deuxième extension et donc dans un an, ces équipements seront pleinement opérationnels et nous aurons donc, grâce à ce bâtiment, pu augmenter notre capacité de production d'environ 25%.
25% car la demande explose chez les fabricants d'ordinateurs, de smartphones, les équipementiers auto et le marché va doubler dans les 10 ans selon les experts avec la voiture électrique très gourmande en puces. Il faut donc déjà préparer l'avenir, dit-il.
C'est une vraie ruche. Le site de Crolles est en pleine effervescence. Ce que l'on entend là, ce sont les compagnons qui sont sur le chantier. Il s'agit de préparer les pieux sur lesquels seront construits les fondations.
On aurait pu entendre que la troisième extension est en cours de travaux. Elle va bientôt sortir de terre. Et pour répondre à la demande, il faut donc désormais recruter. C'est un peu là que le bât blesse en ce moment, car le turnover est important en ce moment. Frédéric Bontaz, le directeur des ressources humaines, on va l'entendre. À Crolles, la pénurie du moment, c'est une pénurie de compétences. On l'écoute.
Les besoins apparaissent pas au jour le jour, mais presque. On a recruté presque 100 personnes de plus que ce qui était prévu. C'est quasiment 30% de recrutement.
Des petits soucis de diffusion de votre reportage, Delphine Simon. À mes côtés, Jean-Marc Chéry, le président du directoire et directeur général de ST Microelectronics. Bonjour Jean-Marc Chéry. Vous êtes le patron d'une ruche, on entendait ce mot dans le journal de Delphine Simon, dans le reportage de Delphine Simon. Ça se développe à fond en ce moment ici.
Oui, tout à fait. Donc c'est pour, je dirais, répondre à la demande de composants qui a explosé depuis le dernier trimestre de l'année 2020.
Voilà. Alors on s'est installé pour commencer cette émission dans un lieu particulier là, du bureau où nous sommes. On a devant nous une plaque de silicium, on a des lingots de silicium, c'est la matière première. Ça au moins, ça ne manque pas, la matière première des semi-conducteurs, on en trouve partout.
Oui, le sable, vous en trouvez partout, c'est
voilà,
sûr.
C'est du sable.
Mais par contre, c'est le processus derrière pour arriver à ce qu'on appelle un lingot de silicium ultra pur. Hein. Donc ce qu'on dit ultra pur, c'est 99% de silicium qu'on va découper après en tranches fines, qu'on appelle des wafers ou une galette en français. Ouais. Et ça, c'est le matériel de base pour ensuite faire ce que vous avez devant vous, là. C'est-à-dire une tranche sur laquelle va être inscrite soit des petits carrés, soit des petits rectangles, qu'on appelle une puce.
Voilà.
Et donc ensuite...
Et il en sort combien de puces de votre usine ?
De plusieurs milliards.
Plusieurs milliards ?
Plusieurs milliards,
chaque année.
Oui, plusieurs milliards chaque année. Oui.
La pénurie, combien de temps va-t-elle durer ? Le patron d'Intel redoute qu'elle se prolonge jusqu'en 2023. Est-ce que c'est également votre analyse ?
Oui, je confirme, puisque l'écart entre la demande telle qu'elle avait été anticipée il y a 2 ou 3 ans ou en 2020, et par rapport à ce qui se passe, c'est quasiment 2 ou 3 fois plus fort en termes de croissance. Et donc l'industrie s'est pas préparée à ça. Donc sachant qu'il faut à peu près entre 18 et 24 mois pour monter des capacités additionnelles et 4 ans pour monter une usine additionnelle, la pénurie, elle se résorbera entre début 2023 et fin 2023.
C'est ça qui explique qu'elle dure aussi longtemps, parce qu'au fond, on comprend bien, l'année dernière, confinement, beaucoup de gens à la maison, l'électronique de loisirs qui explose, le télétravail, l'électronique professionnelle qui explose, parallèlement des chaînes de montage ralenties ou à l'arrêt, mais ça va se prolonger encore de longs mois.
Oui, parce que c'est une industrie qui est fortement capitalistique. C'est-à-dire que si, pour faire simple, si vous voulez croître votre chiffre d'affaires d'un euro, vous devez investir un euro. Donc quand vous allez prévoir que vous allez croître de 10 euros, vous allez investir 10 euros, mais vous n'allez pas investir 30 euros.
Oui.
Parce que sinon, après, vous avez un risque de non-utilisation de vos capacités et économiquement, ça passe pas. Donc, encore une fois, je vous répète, la raison majeure de la crise, c'est que toute la chaîne d'approvisionnement et de fabrication et tous les acteurs économiques de l'électronique n'avaient pas prévu cette forte demande en T4 de 2020 et qui continue
trimestre
aujourd'hui.
4, voilà.
Et effectivement, qui a trouvé sa source dans tout ce que vous venez de nommer. Ouais. C'est-à-dire l'électronique personnelle, les téléphones, les PC, les serveurs liés au jeu travail à la maison.
Ouais.
Ensuite, toute la transformation écologique de la mobilité, donc l'électrification des véhicules, la digitalisation. Même chose dans l'industrie, tous les programmes d'investissement gouvernementaux pour avoir une industrie moins consommatrice de puissance. Tout ça, ça ne demande que de l'électronique. Et tout ça, c'est arrivé en même temps.
Et on voit que devant notre plaque de silicium, on est en train de prendre une leçon d'économie et de géopolitique. On verra ça. Merci Jean-Marc Chéry. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Pour l'instant, le journal à Paris, c'est avec vous Marion Lourd.
Le cercueil d'Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, est en route vers le Mont Valérien pour y être inhumé. Ultime hommage pour l'ancien soldat mort le mois dernier à l'âge de 101 ans. Un chevalier de la liberté, selon les mots ce matin du président de la République. En ce 11 novembre, jour de l'armistice de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron a présidé une cérémonie d'adieu sous l'Arc de Triomphe. Vous l'avez suivi pour France Inter. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Cérémonie en présence entre autres du Premier ministre, de la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris. Un moment très solennel.
Oui, solennel et assez exceptionnel, avec le cercueil d'Hubert Germain transporté sur un char de l'armée de terre remontant les Champs-Élysées avec la grande escorte de la garde républicaine, puis posé sous l'Arc de Triomphe face à la tombe du soldat inconnu. C'est une page de l'histoire de France qui se tourne et Emmanuel Macron a voulu la tourner dans une grande solennité.
Serions-nous là, sans René Cassin, Jean Moulin, Jacques Chaban-Delmas, Romain Gary et André Malraux, sans ce cortège de femmes et d'hommes, faits de bravoure et de sacrifices pour la France. Tous étaient compagnons, sans distinction possible, visage intemporel de la France.
En évoquant ce cortège, il reprend les mots de Malraux devant le cercueil de Jean Moulin. Il promet d'être le garant de l'ordre de la libération, désormais orphelin de ses 1038 compagnons.
Leurs braises ardentes sont dans nos mains, et quand viendra le jour, nous saurons les raviver de ce souffle qui fit lever tous ceux qui nous précèdent et qui nous ont fait libres, français.
Conclusion très politique, Emmanuel Macron se veut facteur d'unité, de liberté, dans les pas du général de Gaulle. Ainsi s'est conclue, sous le soleil, cette première cérémonie en présence des familles des 7 soldats morts pour la France cette année en opération, héritiers du père Germain.
Maxence Lambrecq pour France Inter avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. Vous le disiez, Maxence, il y avait parmi les officiels d'anciens, d'actuels dirigeants, des politiques, des militaires. Mais le public aussi était au rendez-vous ce matin. Bonjour Éric Biégala.
Bonjour.
Il y avait beaucoup d'émotions, hein.
Oui, l'hommage à Hubert Germain, c'était bien sûr le discours du président de la République, mais c'était aussi le périple de sa dépouille, recouverte du drapeau tricolore, bien sûr, transporté sur un char AMX-10 et escorté par la cavalerie de la garde républicaine. Pour Valérie et Jean-Paul, par exemple, venus directement de Normandie avec leurs enfants, c'était important d'être là aujourd'hui.
C'est important de participer en famille à cette cérémonie et encore plus à cet hommage rendu à Hubert Germain, notre dernier compagnon de la libération. Contribuer à notre niveau à ce devoir de mémoire, de transmettre à nos enfants les valeurs que sont la citoyenneté, la fraternité, la liberté.
Effectivement, donc on a profité du grand week-end du 12 novembre, plus particulièrement aujourd'hui, puisque c'est l'hommage de Hubert Germain, ce compagnon de la libération. De voir la garde républicaine monter avec le cercueil, c'est très émouvant. Cet exemple de courage pour les jeunes générations, c'est très important. Je pense qu'il faut méditer là-dessus.
Pour Christophe, un Parisien, c'est à une sorte de rendez-vous avec l'histoire qu'il est venu assister aujourd'hui.
Ça fait 2 ans que je vis à Paris, il m'arrive parfois de faire quelques cérémonies, mais celle-ci représentait beaucoup plus, car c'est surtout un moment de l'histoire de France qui se clôt avec la mort de Hubert Germain et la fin d'une confrérie de chevaliers.
Une confrérie de chevaliers, c'est ainsi qu'Hubert Germain lui-même avait qualifié l'ordre des compagnons de la libération, dont il était le dernier représentant. Un ordre de la libération qui devrait tout de même survivre à sa disparition. C'est en tout cas ce qu'a promis le président de la République dans son discours d'hommage tout à l'heure.
En direct de l'Arc de Triomphe à Paris pour France Inter, Éric Biégala avec Raymond Albouy pour la liaison technique.
13h13 sur France Inter, Marion Lourd, l'un des hommes qui avait mis fin à l'apartheid en 1991 disparaît, Frédéric de Klerk.
L'ex-président sud-africain, dernier président blanc du pays, avait mis un terme à ce régime discriminatoire en place depuis 43 ans et fait libérer Nelson Mandela en 1990 après 27 ans de prison.
Je suis maintenant en mesure d'annoncer que M. Nelson Mandela sera libéré de la prison de Victor Vester le dimanche 11 février vers 15h. Hier soir, j'ai rencontré M. Mandela au Cap. M. Mandela a été informé de la décision du gouvernement concernant sa libération. Les yeux du monde entier sont actuellement tournés vers tous les Sud-Africains. Nous avons tous maintenant la possibilité et la responsabilité de prouver que nous sommes capables de mener à bien un processus pacifique pour créer une nouvelle Afrique du Sud.
Nelson Mandela, avec qui Frédéric de Klerk avait reçu le prix Nobel de la paix en 1993 pour la fin de l'apartheid. L'ex-chef de l'État sud-africain s'est donc éteint à l'âge de 85 ans. Retour sur son parcours, Clémentine Pavlotsky.
Pur produit de l'apartheid, Frédéric de Klerk débute sa carrière comme avocat. Il devient ensuite député, puis ministre à plusieurs reprises avant d'accéder à la fonction suprême en 1989. Et c'est précisément en tant que président de l'Afrique du Sud qu'il participera activement à la chute du régime raciste. Le 2 février 1990, 5 mois seulement après son investiture, il annonce la légalisation immédiate de l'ANC, le Congrès national africain, et la libération prochaine de tous les opposants politiques, dont Nelson Mandela. Ce discours prononcé face au Parlement du Cap le fera définitivement entrer dans l'histoire. Un an plus tard, en 1991, l'apartheid est officiellement aboli dans le pays. Le courage de Frédéric de Klerk est récompensé. En 1993, il reçoit le prestigieux prix Nobel de la paix conjointement avec Nelson Mandela qui lui succédera un an plus tard et le nommera vice-président. Seul ombre au tableau, cette interview accordée à la chaîne américaine CNN en 2012. Un entretien au cours duquel Frédéric de Klerk a regretté les injustices et atteinte aux droits de l'homme durant l'apartheid, mais refusé de condamner le principe de séparation entre les Noirs et les Blancs.
Clémentine Pavlotsky de Radio France Internationale, la mort de Frédéric de Clercq. On y revient ce soir sur France Inter. Fabienne Santès y consacrera une partie de son émission Un jour dans le monde. Le ton monte encore un peu sur la question des 2000 réfugiés massés dans le froid glacial à la frontière entre Biélorussie et Pologne. Flux favorisé par la Biélorussie, selon les Européens. Il est grand temps de tirer les conséquences de cette crise, martèle l'Allemagne. Le président biélorusse, lui, menace aujourd'hui de riposter à toute sanction européenne sur le sujet. La question sera au centre d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce soir. À deux jours de la fin de la COP26, deux géants parviennent enfin à s'entendre. Deux champions des émissions, la Chine et les États-Unis, ont annoncé la nuit dernière un accord, ou plutôt ce qu'ils appellent une déclaration conjointe sur le renforcement de l'action climatique. En substance, Washington et Pékin réaffirment leur attachement à l'accord de Paris et s'engagent à faire plus pour limiter le réchauffement bien en deçà de 2 degrés. La portée symbolique est forte, bien sûr, quand on sait que les deux pays sont champions des émissions de gaz à effet de serre. Mais concrètement, est-ce significatif? Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à la COP26 à Glasgow, en Écosse. En tout cas, Chine et États-Unis jouent l'apaisement.
Oui, au début de la COP26, Joe Biden a critiqué Xi Jinping pour son absence à Glasgow. Hier soir, le ton a changé. John Kerry, l'envoyé spécial du président américain pour le climat, et son homologue chinois, qui se connaissent très bien, ont calmé le jeu. Pas question de faire déborder les tensions actuelles entre Washington et Pékin sur le terrain de la diplomatie climatique. C'est une question de responsabilité, explique John Kerry. Les deux pays s'engagent à lutter contre les émissions de méthane ou encore contre la déforestation illégale. Les États-Unis rappellent qu'ils visent 100% d'électricité décarbonée en 2035. La Chine promet de diminuer sa consommation de charbon. Cette déclaration commune des deux plus grandes puissances mondiales est une bonne surprise de fin de COP, mais elle contient peu d'engagements concrets, d'après Laurence Tubiana, la présidente de la Fondation européenne pour le climat, qui a été l'une des négociatrices de l'accord de Paris en 2015.
Je crois que du point de vue des États-Unis et de la Chine, c'est positif, mais c'est positif pour eux essentiellement. Ça donne un bon signal géopolitique qu'ils vont pas bloquer, qu'ils vont être une force positive hein, dans cette discussion. Mais sur le plan de l'ambition, tant du point de vue du financement que sur le plan de l'ambition, on n'a pas grand-chose de concret. Voilà, on a de bonnes intentions, mais on n'a pas grand-chose de concret.
Dans leur déclaration commune, les deux pays les plus émetteurs de CO2 réaffirment qu'il y a urgence à agir pour le climat pendant cette décennie cruciale. Mais Washington, comme Pékin, donne rendez-vous en 2025, pas avant, pour se fixer de nouveaux objectifs plus ambitieux pour 2035.
Sandy Dauphin à la COP26 pour France Inter avec les moyens techniques de Martin Troadec. La COP, qui pourrait durer plus longtemps que prévu pour laisser aux États le temps de s'entendre, peut-être, sur une nouvelle version du texte final attendu aujourd'hui. Sommes-nous au pied d'une cinquième vague de l'épidémie de Covid? Ça y ressemble, disait hier soir le ministre de la Santé, Olivier Véran. Contamination et hospitalisation augmentent chez nous, mais on est loin des chiffres allemands. Berlin dénombre plus de 50 000 nouveaux cas en une journée, une première depuis le début de la pandémie. Ludovic Piétenu, vous êtes le correspondant de France Inter en Allemagne. Le futur chancelier voudrait resserrer les restrictions.
Olaf Scholz n'est pas encore officiellement en fonction et Angela Merkel est uniquement chargée d'expédier les affaires courantes. Le pays se retrouve politiquement en panne au moment où le coronavirus frappe fort à nouveau. Pour que l'Allemagne soit à l'abri cet hiver, dit Olaf Scholz, nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise pas. Il est donc question de rouvrir les vaccinodromes, ces centres de vaccination aux frais du gouvernement fédéral, de revenir aux tests gratuits et d'intensifier la campagne de vaccination. Mais d'ici là, comme c'est déjà le cas en Saxe depuis lundi et bientôt à Berlin, de généraliser à tout le pays l'interdiction des lieux fermés à tous les non-vaccinés. Si nous ne le faisons pas, nous savons quelle sera la conséquence. Un très grand nombre de ceux qui ne sont pas vaccinés seront infectés et beaucoup de ceux qui sont infectés tomberont malades. Et parmi ceux-là, certains lutteront pour leur vie dans les unités de soins intensifs de nos hôpitaux. Dans cette crise sanitaire, il appelle tous les partis à s'unir. Pour le premier discours de celui qui n'est pas encore chancelier, il trace la voie d'une union sacrée à l'image de sa coalition qui rassemble 3 des 6 partis représentés au Bundestag. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Et face à la progression du virus, l'arme du vaccin, ça marche. Conclusion d'une étude de Santé publique France portant sur la 3e vague entre mars et mai dernier. Chez les personnes âgées résidentes en EHPAD, seule population massivement vaccinée à l'époque, les contaminations ont par exemple chuté durant cette vague de 89% par rapport à la précédente. Sur le vaccin encore, l'Agence européenne des médicaments estime qu'il n'y a pas assez de preuves pour établir un lien possible entre les rares cas de syndrome multi-inflammatoire et les vaccins à ARN messager. L'instance recommande en revanche d'ajouter à la liste des effets secondaires du vaccin Johnson & Johnson un type rare d'inflammation de la colonne vertébrale. Et est-ce un effet de la reprise épidémique outre-Manche ? Le Royaume-Uni voit sa croissance ralentir au troisième trimestre à 1,3%. Pour la zone euro, la Commission européenne prévoit 5%. Finalement, pour cette année, c'est plus que prévu. L'expansion se poursuit, dit-elle, malgré les vents contraires, comme l'inflation tirée par les prix de l'énergie. Les pénuries aussi, on en parle de ces pénuries à 13h30 avec Bruno Duvic et ses invités en direct de l'usine ST Microelectronics de Kroll en Isère.
Pour l'instant, il est 13h20, le pouce vers le bas. Marion, on n'a plus bonne presse chez les géants d'Internet.
Facebook et Instagram donnaient déjà aux internautes la possibilité de masquer leurs likes, jugés parfois nuisibles à la santé des utilisateurs. Cette fois, c'est le diffuseur de vidéos YouTube qui cache le nombre de symboles « je n'aime pas » sous ses vidéos. Autrement dit, la petite main pouce vers le bas sera toujours là, mais impossible de décompter les avis négatifs. Yann Gallic, la plateforme entend créer ainsi un environnement, je cite, « plus respectueux ».
YouTube avait réalisé un test en début d'année. Résultat, il y a moins de clics négatifs quand le bouton « je n'aime pas » n'est plus visible. En prenant cette décision, la plateforme espère limiter le cyberharcèlement et les attaques ciblées. Mais cette mesure reste insuffisante, selon Magali Chavanne, présidente de l'association Cybarso, qui lutte contre le harcèlement en ligne.
C'est souvent sur les commentaires où il y a du cyberharcèlement, de la haine en ligne. Pour aller plus loin, il faudrait mettre beaucoup plus de modérateurs déjà humains et non robotiques. Ces gros groupes ont quand même pas mal d'argent et devraient placer en priorité la prévention et engager plus de modérateurs afin que YouTube soit un peu plus sain.
Fin octobre, les représentants de YouTube, mais aussi ceux de Snapchat et TikTok, ont été auditionnés par les sénateurs américains qui accusent ces plateformes de nuire à la santé mentale et physique des plus jeunes.
Un sujet que vous pourrez lire et liker sur notre site franceinter.fr. Et puis détruire ses propres œuvres d'art est en passe de devenir une habitude. L'artiste de rue Banksy a accepté que soit recouvert le dessin d'un rat armé de bombes de peinture qu'il avait fait sur les murs de sa ville, Bristol, au Royaume-Uni. Une œuvre recouverte donc de peinture par l'acteur Christopher Walken, lui-même excusé du peu. Le tout pour une série de la BBC, The Outlaws. On se rappelle que le mystérieux artiste Banksy avait en 2018 utilisé un cadre pour détruire à distance l'une de ses œuvres vendues aux enchères. Pour rappel, les graphes de Banksy peuvent se vendre plusieurs millions d'euros.
Et oui, c'était le journal de Marion Lourd. Dans un instant, la météo, puis nos invités ici à Kroll pour parler des semi-conducteurs.
Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Yann Aparicio, à Canoës, dans les Pyrénées-Orientales, nous dit pourquoi.
La qualité des conseils, déjà, et ensuite la qualité des verres, on pourrait dire en haute définition. On a l'impression carrément de ne pas porter de lunettes, quoi. J'ai une qualité de vue qui est vraiment parfaite. En plus, j'apprécie d'avoir un certificat d'authenticité des verres, qui est un gage de qualité. Et puis, ce qui est vraiment très important pour moi, c'est que les devis sont toujours parfaitement respectés.
Céline Chevalier, l'opticienne Optique 2000 de M. Aparicio, à Canoës.
Ce qui est important pour nous, c'est que nos clients soient toujours satisfaits et nous avons reçu la certification AFNOR qui est un gage de professionnalisme et de qualité. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous gérons tous les papiers pour nos clients.
Alors, monsieur Aparicio, content d'Optique 2000 ?
Oui, tout à fait. En plus, il s'occupe de tout pour moi, donc quoi demander de mieux ?
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
Le ciel est dégagé sur le massif de Belledonne, ici aux portes de Grenoble. Qu'en est-il ailleurs, le temps de ce jour ?
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et toujours de la pluie en Corse, Jean-Pierre Hameau.
Oui, Bruno, la dépression méditerranéenne fait remonter de l'air doux et humide sur la Corse. Les pluies vont donc rester au menu de l'après-midi et toujours sur la partie orientale de l'île. Des pluies faibles vont remonter vers le Var et les Alpes-Maritimes, mais aussi entre le Roussillon et les Pyrénées-Orientales. Votre après-midi sera bien ensoleillé, excepté vers le plateau Lorrain, la plaine d'Alsace, le Val-de-Saône, mais aussi vers l'Est parisien et la Champagne où les brouillards ne décolleront pas. Puis côté température, ça reste frais dans le Nord, 8 degrés à Strasbourg, 9 à Nancy, 10 à Paris. C'est plus doux ailleurs, hein, comptez 16 à Grenoble, d'ailleurs sous le soleil, 17 à Bordeaux et 20 du côté d'Ajaccio.
C'était la météo de Jean-Pierre Hameau. Le 13-14 consacré aux semi-conducteurs, le nouvel or de l'économie mondiale. Séquence reportage enregistrée ce matin.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Donc nous sommes de retour dans l'usine ST Microelectronics ici à Crolles, la plus grande usine de fabrication de semi-conducteurs en France. Alors comment fabrique-t-on ces produits dont la pénurie grippe l'économie mondiale en ce moment? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et pour commencer, je dois vous dire qu'il va falloir mettre un équipement très particulier. Les conditions d'hygiène sont encore plus importantes que dans un bloc opératoire. C'est la traque à la moindre poussière dans cette usine. Et celui avec qui nous faisons la visite, c'est Richard Colic, qui est le directeur des opérations industrielles ici sur le site. Bonjour Richard.
Bonjour.
C'est parti.
Donc on va poursuivre l'habillage pour pouvoir rentrer. Donc on va commencer par mettre une cagoule pour recouvrir la tête, avec un masque également pour filtrer. Puis donc une combinaison intégrale et enfin des surchausses.
Les plaques de silicium arrivent vierges en quelque sorte dans votre usine, et le travail ça va être la gravure et d'ajouter petit à petit des couches pour fabriquer les microprocesseurs. Là, nous sommes dans une salle où on voit des boîtes circuler au plafond, où on voit des boîtes sortir de machines. Ces boîtes, elles contiennent les plaques de silicium. On est à quel stade de la fabrication, là?
Absolument. Donc, chaque boîte contient 25 plaquettes de silicium. Et on va, au fur et à mesure des étapes, donc effectivement, apporter de la matière et modifier les propriétés de manière à fabriquer ce microprocesseur.
Au-delà du silicium, qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer un microprocesseur? Quelle matière première? De quoi vous avez besoin?
Alors, on a évidemment besoin d'énergie, d'eau, de gaz, de chimie, hein, pour pouvoir fabriquer à chacune de ces étapes. Alors, autre élément important, le contrôle de la température et de l'hygrométrie, oui, qui est assuré. Donc, la température est de 21 degrés plus ou moins 0,5. Ici, tout tourne en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Entre le moment où les plaques arrivent vierges et le moment où sort le produit fini, il se passe combien de temps à peu près, Richard Colic?
Alors, en moyenne, tout dépend des technologies et de la complexité des produits, mais en moyenne, on est sur un temps de cycle qui est de 3 mois. On est aujourd'hui sur une surface de production qui est de près de 14 000 m². Pour comparer, un stade de foot, c'est 7 000 m², hein, donc on peut dire qu'on a déjà deux grands stades de foot et un troisième en construction pour pouvoir assurer la fabrication de ces produits. Voilà, donc là on accède dans la salle principale.
Cette fois on a une fenêtre ouverte sur l'intérieur d'une machine.
Voilà. Donc là, ce qui est intéressant de s'arrêter sur cette machine, c'est une machine de photolithographie. Donc c'est une des étapes les plus critiques, les plus sensibles.
Une machine comme ça vaut combien?
Alors donc c'est une machine qui est constituée encore une fois de deux éléments. On est sur plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est entre autres ces équipements-là et des équipements de gravure qui vont nous permettre de descendre dans les géométries les plus fines. Hein. Donc, c'est-à-dire faire des composants de plus en plus petits. J'ai l'habitude d'utiliser cette image qui est que sur une plaquette finalement de 700 micromètres de silicium, on va réaliser un immeuble de 50 étages, pardon. Et entre chacun des étages, évidemment, il y a tout l'ordonnancement de chacun des étages. Voilà, si on peut prendre une image pour comparer la complexité.
Et nous avons retiré avec Marc Garvenès, qui m'accompagnait pour ce reportage, notre équipement de cosmonaute. D'ailleurs, au plus fort du confinement, ST a fourni les hôpitaux qui en manquaient, souvenez-vous, au début de la pandémie, combinaisons, masques et autres surchaussures, et ont fabriqué sur place le gel hydroalcoolique qui lui aussi était distribué dans la région. Toujours avec nous, Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de ST Microelectronics, et deux autres invités que je vous présente dans un instant. Jean-Marc Chéry, à qui vendez-vous les semi-conducteurs dont on a eu une toute petite idée des conditions de production là dans ce reportage?
Principalement, notre positionnement stratégique, c'est de vendre ces composants soit des équipementiers pour l'automobile,
Automobile,
ou le secteur industriel. Alors quand je dis le secteur industriel, c'est soit par exemple les infrastructures de charge pour les véhicules électriques, les machines de fabrication, les automates, mais dans le secteur industriel aussi on met les produits blancs, donc machines à laver, réfrigérateurs. Donc c'est principalement
automobile, batterie, et, électroménager.
Voilà, principalement ces deux marchés-là. Et de façon globale, c'est-à-dire on veut avoir entre 20 et 30% de part de marché mondial.
Vous n'êtes pas sur les smartphones, sur les consoles, sur les PC ?
Si, de façon très sélective. C'est-à-dire à chaque fois qu'on est convaincu qu'on va apporter de la différence. Je vais vous donner l'exemple le plus connu. La reconnaissance faciale que vous avez sur les iPhones, CST et CST Crawl.
Est-ce que vous pouvez encore augmenter la cadence ? On a entendu avec Delphine au tout début de ce journal que vous agrandissez. Est-ce que vous pouvez encore augmenter la cadence pour répondre à la demande ?
Ben, l'objectif que nous avons établi avec l'équipe, c'est de doubler la fabrication en Europe. Donc en France et en Italie, principalement, nous sommes installés entre 2020 et 2025. Donc on doublera nos capacités de fabrication donc sur ces 5 ans.
Vous souffrez vous-même de pénurie de certains composants ou de main-d'œuvre ?
Alors, on souffre effectivement soit de composants qui vont nous permettre de faire notre propre process de fabrication. Donc ça peut être des produits chimiques, ça peut être même le silicium dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Là.
Même si c'est du sable et qu'on en trouve partout.
Oui. Donc des gaz spéciaux. Après on souffle, là j'ai visité les installations tout à l'heure avec l'équipe. Par exemple, les tuyaux en inox spéciaux, on les approvisionne en Corée.
Oui.
Ils sont bloqués dans un bateau parce que la logistique mondiale est complètement, je dirais, chamboulée en ce moment. Donc oui, on souffre énormément nous-mêmes de la pénurie.
Également avec nous Jean-Éric Michelet, bonjour.
Bonjour.
Délégué général du pôle de compétitivité minalogique ici à Grenoble. Alors juste, les semi-conducteurs, qu'est-ce que c'est ? Je vais essayer de pas trop dire de bêtises. Matériaux tantôt isolants, tantôt conducteurs d'électricité, ce qui est une caractéristique cruciale pour l'électronique, j'ai à peu près bien résumé.
Tout à fait.
Ils servent pour le calcul, pour la mémoire et pour que les objets dialoguent entre eux et avec l'environnement. C'est ça les trois grandes applications.
C'est tout à fait ça.
Quelles autres applications ? On en a déjà cité quelques-unes avec Jean-Marc Chéry. L'automobile, les consoles de jeux, le téléphone, quoi d'autre ?
Il y a des semi-conducteurs partout, c'est un peu la typologie du produit. Vous en retrouvez en effet dans l'électroménager, vous en retrouvez dans vos montres, vous allez en retrouver dans les lunettes bientôt. Vous allez en retrouver dans tout un tas d'objets de notre quotidien. C'est des composants, oui, en effet, c'est une vraie source d'énergie aujourd'hui.
Quel rôle jouez-vous ? Quel rôle joue Minalogic, le pôle de compétitivité ici à Grenoble ?
Alors, nous accompagnons les entreprises dans leur développement du numérique sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais prendre un exemple d'une entreprise, Arribal Technologies, qui a été créée en 2014 par Tristan Roussel, qui travaille sur un capteur olfactif universel pour capter les odeurs. C'est un composant. Ça a été développé au CEA Aleti. Et nous l'avons emmené en 2016, en 2018 au CES de Las Vegas. Nous avons financé deux prototypes.
Le grand salon de l'électronique.
Voilà. Nous avons financé deux projets pour réaliser le prototype. Et là, il vient de lever, l'année dernière, il a levé 7 millions d'euros pour une ligne pilote fabriquer son composant. Donc, je dirais que nous essayons de trouver les bons partenaires. Nous essayons d'accélérer la croissance des entreprises dont nous en accompagnons plusieurs centaines par an. Et ces entreprises, elles créent des emplois pérennes sur la région.
Alors, vous avez cité le CEA. Un de ses éminents représentants est avec nous. Bonjour Stéphane Sibert.
Bonjour.
Directeur de la recherche technologique au CEA, également ici dans la région de Grenoble. Il faut dire qu'il y a tout un pôle autour de l'électronique. Ici, avec une profondeur historique, on est parti des papeteries, on est près des montagnes, puis l'électricité, puis aujourd'hui l'électronique. Un détail clé, Stéphane Sibert, dans cette industrie des semi-conducteurs, c'est la finesse de la gravure. Le combat, il est ici. On parle en nanomètres, en milliardième de mètre. Ici, on grave en 18 nanomètres à Grenoble, c'est ça ?
Alors, la production chez ST aujourd'hui est en 28 nanomètres.
28.
Voilà. Et donc, la prochaine génération qui sera utilisée, justement pour toutes les applications qu'on a citées tout à l'heure, sera effectivement du 18 nanomètres.
C'est quand ?
C'est plutôt à Jean-Marc Chéry de le dire, mais
ce sera en 2024.
2024, voilà. Donc dans 3 ans. Aujourd'hui, les gravures les plus fines, c'est 5 nanomètres, et ça, il y a que Taïwan qui sait le faire.
Oui, alors Taïwan a beaucoup investi dans les années 60 dans la microélectronique. Et puis tout ça a vécu et aujourd'hui effectivement la plus grande entreprise de Taïwan, TSMC, est le leader mondial devant Samsung et Intel.
Sur quoi portent vos recherches, vous, au CEA ?
Alors nous sommes en général à peu près 5 ans en avance de la production industrielle. Donc nous travaillons aujourd'hui sur des produits qui pourront être ensuite mis sur le marché par ST dans 5 ans.
Donc nous en 2026 donc.
Donc à partir de 2020, entre 2025 et 2030, on peut pas être
aussi précis, aussi précis d'accord
à cette date. Je voudrais rappeler que en matière de recherche sur la microélectronique, l'Europe n'est pas décrochée. 3 des principaux centres de recherche mondiaux en microélectronique sont en Europe.
Où ?
L'IMEC en Belgique, le CEA en France, le Fraunhofer en Allemagne. Je voudrais dire aussi qu'ici à Grenoble, nous avons plus de 2000 chercheurs dans le domaine de la microélectronique entre le CEA et l'université Grenoble-Alpes et que tout cet écosystème a été constamment soutenu depuis les années 2000 par l'État et les collectivités locales. C'est à Grenoble qu'une des principales technologies de microélectronique, le FD-SOI, a été inventée. D'abord au CEA, ensuite mise en production chez ST Microelectronics et chez Soitec.
Parce qu'il faut raconter qu'une des particularités de cette industrie, c'est le lien particulièrement étroit entre la recherche et les industriels. Il faut que les deux marchent ensemble. Est-ce que vous lancez une recherche si vous vous dites qu'il n'y a pas d'industrie derrière ou ça n'est même pas la peine ?
Non. Nous avons toujours une perspective de mise en production, de mise sur le marché. Et donc, c'est une relation évidemment étroite entre les industriels, les centres de recherche et les pouvoirs publics pour arriver à rythmer tout ça et à faire en sorte qu'au moment où le marché en aura besoin, au moment donc où l'industriel aura besoin de faire monter sa production, il y ait des technologies qui soient prêtes à lui être transférées.
Jean-Marc Chéry, particularité de cette industrie, son coût. Quand on parle d'une extension, de deux extensions d'ST Microelectronics ici, on parle en quoi ? En centaines de millions d'investissements ?
L'usine telle que vous la voyez là, à l'état où elle est, depuis sa naissance, on a investi 6 milliards d'euros dedans. Et dans les 3 ans qui vont venir, on va investir 2 milliards d'euros. Donc 8 milliards d'euros pour fabriquer le nombre de tranches que vous avez derrière là.
La plaque de
à peu près 12 000 tranches de ce type par semaine. Donc 600 000 tranches par an.
Énormes investissements pour une industrie cyclique, notamment celle du smartphone. Il y a des pics à Noël, au moment du Nouvel An chinois, au moment où les grands modèles se renouvellent. Et puis il y a des creux. Et pour des puces qui, à l'unité, ne valent pas grand-chose. Donc il y a un rapport entre les investissements massifs et le coût à l'unité ensuite des puces.
Alors, cyclique quand on ne parle que de l'électronique destinée à des produits grand public. Mais c'est bien la raison pour laquelle je vous ai expliqué tout à l'heure que ST, on s'est positionné sur le marché automobile et industriel, qui sont des marchés, certes en transformation totale en ce moment, mais qui étaient beaucoup plus stables. Donc en fait, on adresse ces différents marchés pour éviter cet effet cyclique. Maintenant, effectivement, c'est la grosse erreur qu'on fait bon nombre de nos chers clients, c'est de dire mais vous allez m'arrêter la fabrication d'une voiture à cause d'un composant d'un euro. Sauf que, encore une fois, vous prenez dans une voiture sophistiquée, vous allez avoir à peu près 5000 euros de composants par voiture. Si vous n'avez pas anticipé la fabrication d'un million de véhicules, c'est 5 milliards d'euros. Pour faire 5 milliards d'euros de composants, il faut investir 5 milliards.
En sachant
vous avez compris le problème.
J'ai compris en sachant que aujourd'hui la voiture se construit autour du moteur et encore, mais demain elle se construira autour de l'électronique.
Et oui, pourquoi ? Parce que jusqu'à présent c'est vroom vroom, hein, c'est le moteur qui faisait l'expérience client. Maintenant c'est l'électronique qui fera l'expérience client, parce qu'un moteur électrique, il n'y a pas plus neutre qu'un moteur électrique. Mais l'expérience client sera faite par toute l'électronique qui est autour.
Encore un tout petit mot, le fabricant taïwanais a augmenté ses prix de 20%. Vous avez augmenté vos prix ? Il y a pénurie, c'est normal d'augmenter les prix ?
Non, je le vois pas comme ça. Je pense qu'on a augmenté nos prix parce que nous-mêmes,
on souffre. Donc vous avez augmenté vos prix ?
Oui, bien sûr, parce que nous-mêmes, pour deux raisons. Nous-mêmes, on souffre d'inflation. Donc nos propres fournisseurs ont augmenté leurs prix. Et puis ces investissements massifs comme on est en train de faire sont bien au-delà des modèles que l'on avait. Donc il faut bien qu'on rembourse nos investissements.
Delphine Simon, vous êtes toujours avec nous. Un exemple d'application e-bike.
Oui, c'est une start-up née à Grenoble. Elle est hébergée dans le centre de recherche, dans votre centre de recherche, ST Microelectronics. Et grâce à vos puces, e-bike Labs développe une intelligence artificielle qui permet d'immobiliser le vélo en cas de tentative de vol, de détecter les pannes et de remplacer des composants physiques par du logiciel. E-bike Labs a pu lever 1 million d'euros grâce à du crowdfunding pour développer son innovation. Alors j'ai cherché un peu à savoir où elles se cachent, ces puces.
Et vous avez rencontré Maël Bosson, le fondateur d'e-bike.
Les puces, généralement, c'est un peu la partie invisible qui vont permettre au logiciel de s'exécuter. Dans ce vélo, donc, c'est quelque chose qui est relativement bien intégré, donc qui est au centre du cadre.
À côté des pédales.
Donc ce n'est pas accessible de l'utilisateur. Notre vision du vélo intelligent de demain, c'est justement d'avoir ces puces et d'avoir, comme sur les smartphones, la possibilité de télécharger des choses. Simplement, on ne vient pas forcément télécharger des applications, mais dans notre cas, on vient télécharger en fait des composants logiciels qui vont améliorer le fonctionnement du vélo. Et donc, par exemple, ce vélo, est-il capable d'écouter ce qui se passe et de détecter s'il y a un vol? Donc, par exemple, si j'essaye de déplacer le vélo, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, en fait, il détecte qu'il y a une tentative de vol et il s'immobilise directement via le moteur. C'est le moteur qui bip. C'est une espèce d'alarme, voilà, pour dire je suis en train de me faire voler, je m'immobilise, je clignote, je bip, etc. Et en fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 400 000 vélos qui se font voler chaque année en France, donc c'est vraiment un gros fléau du vélo. Donc c'est pour ça que ça amène un niveau de protection qui est intéressant. Et c'est quelque chose qui est breveté et unique chez e-bike labs, notamment dans la capacité de système à fonctionner même si la batterie est vide ou retirée. En cas de panne, on va être capable de le détecter et directement, par exemple, de notifier un opérateur de maintenance dont c'est le métier d'intervenir sur site. Là, on est maintenant en train de concevoir avec nos clients des vélos pour des déploiements à très grande échelle en Europe et en Amérique du Nord, sur des volumes, voilà, plus de l'ordre de 50 000, 100 000 vélos, pour justement amener ces vélos nouvelle génération à grande échelle dans toutes les villes du monde.
Et voilà pour une application. Je voudrais qu'on parle un peu de géopolitique avec nos trois invités à présent. Jean-Éric Michelet, vous qui êtes délégué général du pôle de compétitivité minalogique ici à Grenoble. L'acteur majeur pour les semi-conducteurs les plus avancés, c'est donc Taïwan. On est dans un marché global semi-conducteur de 500 milliards cette année. On estime qui sera à 1000 milliards en 2030. C'est intéressant, Taïwan, parce qu'au fond, à la fin des années 60, ils ont investi dans les semi-conducteurs, un peu comme la France a investi dans le nucléaire à une époque.
On peut le dire. Je pense qu'une bonne analogie des semi-conducteurs, c'est la natation ou l'athlétisme aux Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a plusieurs épreuves. Et il y a les épreuves rennes, qui sont le 100 mètres, nage libre. C'est vrai que les Américains et les Chinois sont très bons. Et puis, il y a d'autres épreuves où il faut un petit peu plus de technique. Et puis, il y a des nouvelles épreuves qui arrivent. On a vu la natation synchronisée, on a vu la natation en eau libre. Donc, et puis, on voit des nouveaux champions qui arrivent. Je pense qu'en effet, Taïwan a beaucoup investi. Je pense que nous aussi, en Europe, on a investi sur d'autres nages que la nage libre. Donc aujourd'hui, voilà, on connaît le microprocesseur dans notre téléphone. On parle aussi des composants mémoire, où le coréen Samsung et puis l'américain Micron sont aussi les champions. Mais nous, on a des champions. On a ST qui est médaille d'or sur plusieurs épreuves. On a Soitec qui est médaille d'or sur plusieurs épreuves. On a Infineon, on a NXP aussi en Europe. On a ASML qui est médaille d'or sur les équipements de lithographie. Donc voilà, c'est vrai que c'est très diversifié.
Mais pour rester un instant sur Taïwan et l'Asie, pardon, pour les semi-conducteurs vraiment les plus avancés, 100% ça se passe soit chez Samsung en Corée, soit à Taïwan.
Aujourd'hui, oui.
Ce qui signifie, hypothèse réellement envisagée par beaucoup d'analystes, que si la Chine met la main sur Taïwan, les conséquences économiques et industrielles ne seront pas minces.
Alors bon, je vais pas me lancer dans une analyse
économique
et politique, mais voilà, on peut en effet le dire.
Stéphane Sibert sur cette question.
Oui, en effet, ça fait des années que la Chine essaye de produire des générations avancées de semi-conducteurs. Elle n'a pas pu acquérir la maîtrise de cette échelle.
Donc la Chine, c'est 36% de l'électronique mondiale, mais seulement 7% des semi-conducteurs.
Voilà, et 0% des semi-conducteurs les plus avancés.
Oui.
Et donc beaucoup d'observateurs se disent que les manœuvres autour de Taïwan, si elles aboutissaient à la prise de contrôle de Taïwan, la Chine pourrait accéder d'un seul coup à la maîtrise de cette technologie. Et donc on irait probablement vers une bipolarisation entre la Chine et les États-Unis dans le semi-conducteur. Et donc tout ça dans un climat de très grande tension qu'on connaît tous, c'est ce qui inquiète tout le monde.
Et là, Jean-Marc Chéry me fait signe.
Et je pense qu'il ne faut pas trop non plus psychoter sur Taïwan, parce que si nous, Européens, par exemple, on ne veut plus envoyer des machines du fabricant ASML à Taïwan, ils arrêteront de fabriquer.
C'est
donc
ça.
Si vous voulez,
Taïwan dépend de l'Europe pour un certain
nombre
de machines.
Il faut bien comprendre que toute cette industrie électronique a mis 30-40 ans à se globaliser pour être efficace, pour innover. Donc il y a des grands spécialistes qui se sont créés. Et Taïwan, c'est jamais que 19% de la valeur de l'industrie électronique.
Mais l'Europe, ça n'est que 10%
et l'Europe,
du marché,
c'est que 10%,
ce
et les plus grands, c'est les États-Unis, 38%.
Oui.
Donc vous voyez, il faut tout mettre tout ça en perspective. Je vais vous donner un exemple, puisqu'on est à une heure de grande écoute. Moi, j'ai reçu la demande d'un fabricant américain qui m'a demandé de lui livrer des produits faits ici à Crolles. Sinon, il ne pouvait pas expédier ses équipements à Taïwan, qui devait fabriquer des microprocesseurs. Mmh. Donc, vous voyez, tout le monde se tient. Donc, la chaîne de la valeur est extrêmement compliquée.
Tout le monde se tient, il y en a qui tiennent un peu plus les autres quand même.
L'Europe tient autant que les États-Unis, etc., etc. Et certains ont fait des choix de mettre la production à Taïwan, d'autres n'ont pas fait comme ST. Nous, on a choisi de mettre notre production en France et en Italie. Certains ont fait un choix contraire. Mais encore une fois, c'est ce qu'on a appelé la globalisation et qui a amené de l'innovation et la baisse des coûts.
Trois grands sites de production en Europe, trois grandes entreprises. Stéphane Sibert, est-ce que pour avancer dans la course à la technologie, un partenariat entre des Européens et des Chinois, des Taïwanais, des Coréens, est-ce que ça c'est envisageable ou le secteur est tellement concurrentiel, les transferts de technologie, etc., que chacun reste chez soi?
Bon, je pense que l'Europe a vraiment pris les choses en main avec la perspective du Chips Act qui a été annoncée par la présidente.
Pour passer de 10 à 20% du marché.
Exactement.
C'est 40 milliards qui sont mis sur la table et 6 milliards côté français.
Tout à fait. Donc, je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'il y a deux manières de récupérer de l'autonomie de fabrication. Il y a la possibilité exogène, c'est-à-dire qu'on installe une usine d'un fabricant non européen sur le sol européen. C'est aussi ce qu'ont fait les États-Unis il n'y a pas longtemps.
Absolument.
Avec TSMC et avec Samsung.
TSMC, c'est le fabricant de Taïwan. Il y a une usine qui s'est installée en Arizona.
Et puis, il y a la voie sur laquelle nous travaillons en priorité en tant que centre de recherche publique. C'est évidemment le soutien aux fabricants européens qui, eux, vont aussi monter en compétences. Mmh. Alors, pour pouvoir faire tout ça, il y a besoin de deux critères. D'abord, il faut la maîtrise technologique. On en a parlé tout à l'heure. En Europe, on est tout à fait au niveau nécessaire. Et ensuite, il y a l'argent. Bon. Et donc, vous l'avez dit, il y a eu des annonces récentes très importantes, 6 milliards en France 2030 sur le volet électronique. On parle de 40 milliards pour le Chips Act européen. Les plans en Allemagne et en Italie sont de la même importance. Donc, nous, on a fait nos évaluations financières pour les 10 ans qui viennent. Et l'argent qui est mis sur la table est absolument au bon niveau. Donc,
Il
est au bon niveau et donc on a les bases pour réussir.
Jean-Marc Chéry, les 8 milliards dont vous parliez tout à l'heure, ils viennent d'où? Est-ce qu'il y a beaucoup de financement public sur ces 8 milliards?
Non, alors sur l'investissement, c'est autofinancé par ST. L'argent public est venu pour nous aider à développer de la technologie, à faire de la recherche et développement. À peu près 30% des dépenses de recherche et développement technologique ont été aidées dans les 10 dernières années. Mmh. Et si vous voyez aujourd'hui effectivement cette usine à cette taille, c'est parce qu'il y a eu plusieurs plans d'aide à la recherche et développement technologique. Mais on ne reçoit pas d'aide pour investir en fabrication. C'est la compagnie elle-même qui autofinance ses investissements.
Alors, Delphine Simon, sur le site du commissariat à l'énergie atomique Leti sur la presqu'île de Grenoble, c'est là que les chercheurs de l'écosystème grenoblois sont installés. Leti, labo électronique et technologie de l'information, il date de 1967. Là, on fait de la recherche appliquée, on cherche avec des industriels, on le disait plus tôt dans l'émission, et cela demande, on y revient, des investissements colossaux dans cette course à l'infiniment petit.
Oui, là on est sur le campus Minatech, 12 000 mètres carrés de salles blanches, elles sont plusieurs, reliées par un téléphérique à l'atmosphère confinée. À l'intérieur, de grandes machines ultra précises pour développer des projets de recherche à l'échelle de l'atome. Investissements colossaux, vous l'avez dit, exemple avec le vice-président de l'Institut CEA Leti, Thomas Signamarchais.
On est dans le monde de l'infiniment petit, c'est-à-dire qu'on travaille des choses qu'on ne voit jamais. Devant vous, il y a typiquement ce qu'on appelle une machine de lithographie à immersion. Donc c'est une des machines qui permet de faire des tout petits motifs, ce qu'on appelle nos transistors, jusqu'à des motifs de dimension à peu près 10 nanomètres. Donc c'est cette grosse machine que vous voyez devant vous qui est assez bruyante, qui à l'époque, quand il a fallu l'acheter, coûtait au prix catalogue à peu près 100 millions de dollars. À peu près 10 machines sont nécessaires pour faire fonctionner celle-ci. Chaque machine va là entre 1 et 3 millions.
Une course à l'infiniment petit, et c'est indispensable dans l'industrie d'aujourd'hui, explique Jean-René Lekepeis, le directeur des programmes du CEA Leti.
Plus c'est petit, plus on a des performances bonnes en termes de vitesse de fonctionnement et en termes de consommation énergétique. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers ces puces de calcul qui auront des géométries de plus en plus fines. Les puces les plus agressives aujourd'hui sur le marché ont une finesse de gravure qui est de l'ordre de 5 nanomètres. C'est 10 000 fois plus petit que la taille d'un cheveu.
Et pour financer cette course, l'Institut valorise ses 3 000 brevets des innovations dans tous les secteurs qu'il expose sur son showroom. Ça va de la cafetière électrique au tissu. Le fruit de la recherche est partout.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des technologies qui sont issues du Sealeti dans tous les smartphones. Quand vous prenez une photo avec votre smartphone, vous utilisez ce qu'on appelle un caméraphone et donc un imageur derrière, et qui permet de prendre des photos, mais aussi sur les Apple, donc le fait que le téléphone vous a reconnu et vous n'avez plus à taper votre code. Ça, c'est un gros marché, un gros business.
Pour se financer, le laboratoire peut compter sur 15% de fonds alloués par le CEA. Pour le reste, eh bien, il faut trouver des partenaires privés. Alors, blouse blanche et blouse bleue, côte à côte, les chercheurs et les industriels travaillent. C'est unique en Europe, dit-il.
C'est une position unique en Europe d'avoir des centres de recherche comme le CEA Leti. On utilise les mêmes équipements que l'industriel, c'est-à-dire quand on développe un procédé, ce procédé peut ensuite être aisément transféré à l'industriel, parce qu'on utilise les mêmes équipements et les mêmes machines que lui.
Voilà, une course vers les puces du futur qui est un enjeu crucial, on l'a compris, à la fois pour la France et pour l'Europe, qui mise beaucoup sur ces puces à très forte valeur ajoutée.
Jean-Éric Michalet, le 5 nano, on y arrivera en Europe et quand ?
Alors, on y arrivera peut-être. On arrivera surtout à faire, encore une fois, d'autres puces qui seront très importantes. Je voudrais citer, par exemple, Aledia, qui sort une technologie pour des futurs écrans qui équiperont certainement les smartphones et puis les tablettes du futur. C'est Giorgio Anania qui a créé Aledia avec Xavier Hugon, Philippe Gillet, qui sort du CEA Leti. C'est aussi Iten, qui est une entreprise de Lyon, qui fabrique les futures micro-batteries qui vont remplacer les piles boutons, qui vient de lever 20 millions d'euros, Fabien Gaben, qui est un chercheur de l'ENS Lyon. C'est aussi Primo Indé qui vient d'annoncer là 16 millions. Ils fabriquent, eux, des petites puces qu'ils mettent dans des fils. Et vous allez pouvoir tisser des tissus avec ces puces. Ça va servir, par exemple, à fabriquer des draps pour les hôpitaux. Vous pourrez reconnaître très facilement. Les grands de la mode s'intéressent à Primo Indé. Donc, la question, oui, peut-être 5 nanomètres, mais en fait, c'est pas la bonne question.
La
bonne question, c'est...
On arrive à la fin de cette émission.
Est-ce qu'on va arriver à produire les bons composants au bon moment et que le marché va vouloir ? Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui.
Et que dit le monsieur du CEA là-dessus ?
Bon, évidemment, les puces de demain auront des tailles de plus en plus
petites. Stéphane
Cibert. Voilà. Ouais. Et contrairement à ce qui avait été annoncé, hein, on continue encore aujourd'hui à repousser ces limites de la miniaturisation. Ouais. Et puis, on va aussi aller vers d'autres matériaux. On va peut-être utiliser d'autres propriétés physiques. On a aussi tout le champ du calcul quantique. Donc, il y a d'immenses perspectives. Mais moi, je voudrais insister sur un point très, très important. C'est la consommation électrique. Le numérique aujourd'hui dans le monde consomme déjà beaucoup trop, et je pense qu'un des grands défis du futur, ça va être de réduire drastiquement la consommation de toutes ces puces pour que le développement du numérique reste soutenable.
Et la recherche au CEA porte aussi là-dessus.
Bien entendu.
On parlait de la COP dans le journal de Marion Lourd. Jean-Marc Chéry, un dernier mot, je voudrais qu'on revienne à ce qu'on disait au tout début, revenir sur l'origine de cette émission, la pénurie. On a encore de longs mois où on risque de voir des usines automobiles à l'arrêt, où on risque de galérer pour trouver une console de jeu. On approche de Noël. Voilà, il y en a pour de longs mois encore.
Oui, il y en a au moins. Les choses vont s'améliorer en 2022 et devraient revenir à un état normal d'ici 2023. Bon, il y a un point que je voudrais préciser encore une fois. On a beaucoup parlé de miniaturisation et de 5 nano. Le marché du 5 nano en Europe entre 2025 et 2030, ça sera 300 millions d'euros par an.
Ce qui n'est pas grand-chose pour le marché.
C'est rien. Tout le marché du semi-conducteur en Europe, pour l'automobile, secteur industriel, c'est des technologies entre 90 nano et 16 nanomètres, voire 12 nanomètres. C'est ce que fait ST, et c'est ce que fera ST, et c'est ce que produira ST.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission ici à Kroll sur le site de ST Microelectronics. Tout autre sujet à présent.
France Inter.
En ce 11 novembre, on nous rend hommage au dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain. On ne pouvait pas manquer le musée de la Résistance de Grenoble. Grenoble, ville compagnon de la Libération. C'est Sarah Guibaudot qui y est allée hier. Et nous allons vous raconter un épisode qu'aurait pu nous raconter Jean Lebrun, à la fois glorieux et tragique de l'histoire de la région. Précisons que dans un premier temps, sous la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Italiens qui occupaient la région. Les Allemands sont arrivés en 43. Et le 11 novembre 1943, il y a donc 78 ans exactement, des centaines de personnes ont défié l'occupant en célébrant l'armistice de 1918. C'est Alice Buffet, la directrice du musée, qui raconte à Sarah.
Alors les patriotes dauphinois sont appelés à manifester pour commémorer l'armistice du 11 novembre 1918, qui est interdit depuis 1940, hein, on ne peut pas le commémorer. Cependant, nous sommes sous occupation allemande depuis peu. Clairement, il y a un changement de climat, on parle de guérilla urbaine, on parle de guerre civile, et puis ça va être le moment aussi où la résistance va rentrer en action, avec des actions assez emblématiques. Donc voilà, on est dans un climat extrêmement tendu.
Alors la résistance s'est déjà organisée. Comment elle voit cette manifestation du 11 novembre 1943 ? Elle a bien conscience du danger ?
Oui, elle va même essayer de l'empêcher. Malheureusement, rien n'y fait. Et effectivement, ce sont près de 2000 personnes qui vont se rassembler et qui vont tenter de rejoindre le monument aux morts à la Porte de France, donc à l'entrée de Grenoble.
Et là, nous n'avons pas pu nous y rendre du fait que la garde mobile française était là, à cheval, et nous a empêchés de traverser. Un mot d'ordre est passé, tout le monde au diable bleu.
Ils vont défiler dans les rues de Grenoble, donc après près de 2000 personnes, ce qui est assez conséquent pour l'époque, avec notamment en chantant notamment la Marseillaise, en sifflant la milice lors du passage devant l'immeuble dans lequel elle est installée, également au cri de Vive de Gaulle.
Sur le monument Place Paul Mistral, il y avait un gendarme qui nous a demandé de nous en aller. Je vous en supplie. Je vous en supplie, partez, c'est un piège.
Et après un dépôt de gerbes, le chant de la Marseillaise, il y a eu une détonation. Et on a vu surgir les Allemands, les SS, un peu de partout.
Et beaucoup vont être arrêtés ce jour-là.
Beaucoup vont être arrêtés, effectivement, puisque une fois arrivés au monument des Diables Bleus, ils dressent un drapeau français sur le monument. Ils vont être très vite encerclés par la police française, qui elle-même, vers 17h, va être encerclée par la Wehrmacht. Ils vont encercler tout le monde. Ils vont finir par libérer en fin de journée les policiers français, les femmes, les enfants. Ils vont retenir un nombre important de personnes, hein, puisque c'est environ 400 personnes qui vont être ensuite déportées et seulement 120 vont rentrer.
Et en novembre 44, le général de Gaulle est venu à Grenoble décerner à la ville la Croix de la Libération. 400 personnes déportées. Pour ne pas rester sur cette note tragique, autre manifestation de défi des Dauphinois pendant la Seconde Guerre mondiale, des bals clandestins. C'est toujours Alice Buffet qui raconte à Sarah Guibaudot. Une exposition est consacrée à ces bals en ce moment au Musée de la Résistance.
Durant la période, il y avait une interdiction de danser. Alors, on connaît l'interdiction de se rassembler, mais là, effectivement, il y a une vraie interdiction de danser, il y a une vraie interdiction de tenir des bals.
Et le maréchal Pétain condamne très fermement les bals.
Effectivement, dans un discours qu'il adresse spécifiquement à la jeunesse le 29 décembre 1940, il accuse la jeunesse, et en tout cas les Français, de s'être perdus sur les chemins fleuris du plaisir, et que c'est cela qui a conduit à la défaite.
C'est à vous, jeunes Français, que je m'adresse aujourd'hui. L'atmosphère malsaine dans laquelle ont grandi beaucoup de vos aînés a détendu leurs énergies, amolli leur courage et les a conduits par les chemins fleuris du plaisir à la pire catastrophe de notre histoire.
L'idée, c'est de montrer à la fois que ces bals sont réprimés de façon assez sévère, par des amendes, parfois des confiscations d'instruments, mais également, ça peut aller jusqu'à de l'internement administratif. En revanche, les Français ont envie de continuer à danser. Et donc, effectivement, ils vont s'organiser pour continuer de se retrouver. Ce sont des lieux de sociabilisation pour les jeunes gens de l'époque. Et donc, on va organiser des bals dans des lieux un peu insolites, parfois des cinémas, des forêts, des clairières, des arrière-salles de café. Également. Évidemment, on a eu envie de montrer comme un clin d'œil, ou en tout cas de pouvoir rappeler que durant les différents confinements que nous avons vécu, des initiatives avaient été prises, notamment ici à Grenoble, de 5 minutes de danse par jour devant les lieux culturels fermés, qui permettaient justement de montrer que ces lieux étaient assez essentiels.
Et l'exposition « Vous n'irez plus danser, les bals clandestins 1939-1945 au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, c'est jusqu'au 3 janvier. Et voilà pour la vie à Grenoble, ville compagnon de la Libération en ce jour. Dommage à Hubert Germain. Après le flash de 14h, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le programme Mathieu ?
On parlera des modes de vie alternatifs en milieu rural.
À tout de suite.
Le progrès, c'est quoi ? Le progrès pour une entreprise, c'est savoir se renouveler, se réinventer.
c'est être capable de sortir de sa zone de confort pour affronter les difficultés ou répondre à de nouveaux défis. Ada Gershouch est handicapée. Être en dehors de sa zone de confort, c'est son quotidien.
Je m'appelle Ada, je suis coach en entreprise. Le progrès, c'est moi.
AGFIP. Ensemble, montrons que les personnes handicapées font progresser les entreprises. Du 15 au 21 novembre, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Témoignez de votre engagement sur activateurdeprogrès.fr.
Radio France, partenaire du prix Philippe Chaffanjon. Vous êtes reporter, participez à la 9e édition. Si en 2021, vous avez réalisé un reportage publié sur un site français ou haïtien, inscrivez-vous jusqu'au 31 décembre pour ce prix remis par le président du jury, Pierre Aski, et en présence du président d'honneur, l'académicien Dany Laferrière. Toutes les infos sur radiofrance.com.
Avec ma tablette ardoise, j'adore recevoir des nouvelles de mes petits-enfants. Et quand ils m'appellent en visio pendant mes mots fléchés, j'en profite pour me faire aider.
Avec la tablette ardoise proposée par La Poste, les seniors découvrent la joie d'être connectés à Internet et à ce qu'ils aiment. Et jusqu'au 31 janvier, la tablette est à 199€ hors prix de l'abonnement au service ardoise. Une solution Mon Bien Vivre à retrouver à La Poste ou sur ardoise.com.
Pour ce 13-14 ici à Crolles, merci à Benjamin Chauvin, Marc Garvenès, Lucien Lefebvre, Ibrahim Seliem, Sarah Guibaudot, Claire-Sophie Collet, Delphine Simon et merci à toute l'équipe de ST Micro Electronics qui nous a accueillis. Dans un instant, la Terre au carré, il est 14h sur France Inter.